les jours, les mois, les années. Une nouvelle de l'écrivain Jan Lianke. Lecture proposée par Christine Fusarelli. Épisode numéro 12. La grande jarre était déjà emplie au tiers de sa capacité, mais en 5 jours, l'aïeul avait mangé 5 rats. Il en restait encore 4 qui constitueraient la ration alimentaire des 4 jours à venir. La culture continuait à pousser, sa verdure éclatante sous le soleil. Mais au sommet de l'épi, les soies devenues rouges avaient cessé de foncer. L'épi ressemblait déjà à une petite carotte, mais les soies renonçaient à brunir et le sommet de la plante refusait de jaunir. La culture était encore loin d'arriver à maturité. Le soir, le couchant ensanglantait monts et veaux, l'aïeul baignant dans ce flot rouge brûlant palpait l'épi aux feuilles luxuriantes. De la douceur qu'il sentait sous ses doigts naissait l'inquiétude. Quand donc le plein automne arriverait-il? Au vu de la croissance du maïs, il était à craindre qu'il faille encore attendre au moins 20 jours, voire 1 mois. Il compta les jours. Depuis que les villageois étaient partis, 4 mois déjà s'étaient écoulés. Généralement, un pied de maïs atteint sa maturité au bout de 4 mois et demi, mais celui-ci ne semblait pas en prendre le chemin. Cette attente prolongée déclencha une bruine d'affliction dans le cœur de l'aïeul. Il fit une ronde avec le chien pour examiner chaque trou à rats. Ils ne trouvèrent pas un rongeur de plus. L'aïeul s'avança sur l'arête ventée, s'allongea au bord du chemin, le visage tourné vers le ciel. Les braises chaudes de la terre lui martelaient le dos, transperçant sa chair de pointes brûlantes. Le chien s'était couché à ses côtés. Son corps était si maigre qu'il ne semblait plus avoir la force de se relever. Un cri faible et plaintif de rats affamés leur parvint depuis un trou éloigné, aiguisant le terrible appétit qui leur creusait le ventre. Le chien tourna la tête en direction du cri, mais ne bougea pas. L'aïeul demeura silencieux, les yeux rivés au ciel. Un peu plus tard, il se retourna, provoquant un bruit effrayant dans le silence de la chaîne montagneuse. Le chien, croyant qu'il allait parler, tourna aussitôt la tête vers lui, mais l'aïeul se leva simplement et s'éloigna. Il revint, toujours sans mot dire, auprès de la culture, en palpa l'épi, marmonna quelque chose d'incompréhensible, puis, contre toute attente, chargea la phalange sur ses épaules et, à la faveur des rayons lunaires, la route vers le nord. La nuit même, l'aïeul ramena 2 seaux d'eau. Il n'en avait pas bu une seule gorgée, les 2 seaux étaient remplis à ras-bord. Il versa le contenu d'un demi-seau dans la jarre, utilisa un bol pour puiser le reste afin d'arroser la culture et de remplir une cuvette pour que l'aveugle puisse boire quand il aurait soif. Après quoi, il fit cuire un rat, chargea de nouveau la phalange sur ses épaules et repartit. Pendant 3 jours, l'aïeul ramena ainsi chaque nuit le contenu de 2 seaux d'eau et chaque jour le contenu d'un seau. La jarre fut enfin pleine. Il avait décidé d'accomplir ses derniers trajets jusqu'à la source, tant qu'il lui restait encore un peu de force et qu'il restait encore un rat. Le contenu des seaux suffirait à tromper leur faim et leur soif pendant plusieurs jours. L'aïeul n'espérait pas une averse. Il espérait pouvoir tenir jusqu'au plein automne, jusqu'au moment où il pourrait enfin cueillir l'épi de maïs. Ce serait un bel épi doré, sur lequel il y aurait par exemple 35 grains par rangée, ce qui ferait sur au minimum 23 rangées des centaines, voire un millier de grains au total. 4 mois et demi s'étaient écoulés, le plein automne approchait à grands pas. À midi, l'aïeul pouvait sentir l'odeur tiède du maïs jaune, glutineux, et vers minuit, l'odeur était aussi claire que celle de l'huile de sésame. Elle se dégageait par fines rafales et retombait légèrement dans le champ, comme un pan de soie naturelle. Un jour, exactement au milieu du mois, l'aïeul retourna une ultime fois chercher de l'eau. Sur le chemin du retour, le lendemain après-midi, il s'arrêta 41 fois et but le contenu d'un seau. Arrivé à hauteur de son champ, il s'assit pour se reposer et resta ainsi jusqu'à la tombée de la nuit. Il pensait qu'il n'avait plus assez de force pour porter la palanche jusqu'à la cabane, à côté de la jarre. Alors il décida de faire cuire le dernier rat. C'était le plus gros des 9 capturés, il mesurait 1 empan de longueur, ses yeux étaient teintés de rouge, mais lorsque l'aïeul arriva près du trou à rat, il ne vit à l'intérieur que de la terre effritée, des traces de bonds et de chutes. Quant au rongeur, il avait disparu. Le cœur serré, l'homme s'accroupit au-dessus du trou creusé en forme de jarre et en scruta l'intérieur. Il y avait des traces de pattes du chien, des poils de rat dispersés çà et là et des traînées de sang pareilles à des lambeaux de peau de jujube. L'aïeul demeura ainsi accroupi au-dessus du trou jusqu'à la nuit noire. Lorsque la lune apparut, il eut un petit éclat de rire. On aurait dit qu'une mince couche de glace se fendait lentement. Il allait finalement dire quelque chose. Il se redressa, le visage tourné vers la lune obscurcie de nuages, et dit « C'est bien que tu l'aies mangé. Et puisque tu l'as mangé, je peux bien te le dire maintenant. Dans les jours à venir, ce n'est pas moi qui te servirai de repas. C'est toi qui me serviras de repas, pour que je puisse continuer à veiller sur la culture. » L'aïeul pensa « Je peux enfin te le dire, l'aveugle. Jusqu'ici, je n'avais pas trouvé l'occasion de t'en parler. » Il se dirigea vers la cabane, ses jambes étaient toutes courbattues, mais il arrivait quand même encore à mettre un pied devant l'autre. Il dépassa la cabane et monta jusque sur l'arête. Là, il chargea la palanche sur ses épaules pour la ramener. Près de la cabane. En entendant les pas de l'aïeul, il se leva, fit mine de vouloir aller à sa rencontre, mais recula finalement en silence et se recoucha à l'entrée de l'abri de nattes. Des flots de rayons lunaires éclairaient la terre, leur blancheur laiteuse encore empreinte de la chaleur du jour. L'aïeul posa le seau à côté de la jarre, écarta un pan de natte pour jeter un coup d'œil au récipient empli d'eau, retira ses chaussures pour en enlever le sable, arrêta un moment son regard sur la cravache suspendue au pilier de la cabane, puis toussa un peu pour s'éclaircir la voix et dit très doucement « Viens, l'aveugle. » C'était la première fois depuis plusieurs jours que le chien entendait l'homme l'appeler. Sous les rayons lunaires, il contracta légèrement son corps, se leva avec effort, des frissons parcourant son échine clairsemée. L'aïeul détourna le regard, fixant un point lointain, il dit « L'aveugle, tu n'as pas à avoir peur. Tu l'as mangé et tu as bien fait. C'était notre dernière ration de nourriture. Tu as mangé ma part, mais je ne t'en veux pas. » Ensuite, il ramena la tête vers le chien et dit « Il y a une chose que je dois te dire, l'aveugle. Sur ce périmètre montagneux de 50 kilomètres, il n'y a plus un seul grain de maïs, plus un seul rat non plus. D'ici 3 jours, nous aurons tellement faim, toi et moi, que nous n'aurons même plus la force de parler. À ce moment-là, si tu as encore envie de vivre, tu n'auras qu'à te nourrir de ma chair jour après jour. Tu garderas la culture jusqu'à ce que les villageois reviennent et tu les conduiras ici afin qu'ils cueillent l'épi. Si tu m'es reconnaissant de t'avoir nourri durant ces 4 ou 5 mois, si tu veux que je vive encore, alors il faudra me laisser me nourrir de ta chair, que je tienne jusqu'au plein automne. » L'aïeul dit, « L'aveugle, c'est à toi de décider. Si tu veux vivre, éloigne-toi cette nuit même, cache-toi quelque part et reviens d'ici 3 ou 5 jours. Tu me trouveras ici, mort de faim. » Ayant terminé de parler, il se passa une main sur le visage de haut en bas. Deux coulées de larmes lui mouillèrent la main. Le chien s'était tenu debout, immobile, le temps du discours. Il fit quelques pas jusqu'à l'homme, s'arrêta et fléchit lentement ses pattes de devant, maintenant droites les pattes arrière. Puis il leva sa tête émaciée vers l'aïeul, le fixant silencieusement des deux puits de ses orbites emplis de larmes. La bête s'était agenouillée devant lui. L'aïeul le savait. Ensuite, le chien se redressa, se dirigea lentement vers le fourneau. Là, avec sa gueule, il souleva le couvercle de la marmite et en retira quelque chose qu'il ramena vers l'homme. Il déposa la chose au pied de l'aïeul. C'était un rat auquel on avait retiré la peau. Il apparaissait dégoûtant, sombre et pourpre à la lumière lunaire. Au premier coup d'œil, l'aïeul sut qu'il était encore plein de sang, à la différence d'un rat qu'il aurait tué lui-même et qu'il aurait éventré, vidé. L'aïeul saisit le morceau de viande pourpre, constata qu'il était criblé de coups de dents. Il soupira profondément et dit « Tu n'as pas mangé ce rat ?» Il dit encore « Tu pouvais le manger. Tu l'aurais mangé et puis c'est tout. Ce n'était pas la peine de le garder pour moi. » Soudain, il eut quelques remords. Il avait parlé trop vite tout à l'heure. Il souleva le rat pour mieux le regarder à la lumière de la lune. Il dit « Son ventre est plein de sang. J'ai peur qu'il ne soit pas aussi bon que si on l'avait vidé. » Le chien s'allongea à côté de l'homme, appuyant la tête contre ses jambes. Le lendemain, l'aïeul fit cuire le rat, en donna la moitié au chien, lui disant « Mange, vis encore aussi longtemps que tu peux. » Le chien ne mangeait pas. L'aïeul lui ouvrit grand la mâchoire, y fourra la tête du rat ainsi que 3 pattes. Il garda le reste de la viande dans une main, dont il mâcha lentement les morceaux, debout devant la culture. Il savait qu'ensuite, il n'y aurait absolument plus rien à manger, qu'il ne lui resterait plus qu'à s'étendre, jusqu'à ce que la faim use toutes ses forces et qu'il meure. Il mourrait et puis c'est tout. Il avait 72 ans, c'était déjà un âge très avancé pour la région. Et puis, il y avait eu cette sécheresse, les vivres complètement épuisés. Non seulement il avait vécu encore 6 mois, mais il avait également fait pousser le maïs. La culture était de 3 têtes plus haute que lui maintenant. Elle avait de belles feuilles longues et larges, et son épi ressemblait déjà à une carotte. L'aïeul fixait les soies de l'épi. Il avala encore quelques bouchées, et il ne resta plus rien. Alors il suça goulûment ses doigts. À ce moment-là, quelque chose lui effleura le visage. Quelque chose de très léger comme un flocon de neige. Il leva la tête tout en continuant à sucer ses doigts. Il vit qu'en une nuit, le sommet de la plante, auparavant jaune clair, avait pris une teinte rouge sombre. De petites particules veloutées, pareilles à des enveloppes de riz, s'en détachaient, voltigeant avant de tomber. Cela signifiait que la plante était en pleine période de pollinisation, qu'elle allait donner des graines. Cela signifiait que le plein automne était là. L'aïeul renversa la tête pour contempler le ciel. Les faisceaux de lumière se heurtaient les uns les autres, sifflaient dans l'espace éblouissant. « Ce serait bien s'il y avait un peu de vent, » pensa l'aïeul. « Il en faut un peu en cette saison. Avec du vent, la pollinisation se fera plus rapidement et de façon plus homogène. Les graines seront plus belles, plus robustes. » Il retira les doigts de sa bouche pour les essuyer avec négligence sur son pantalon. Puis, avec beaucoup de précaution, il se mit à palper les pieds. Il écarta d'abord les spathes qui l'enveloppaient, sentit sous ses doigts la consistance de l'épi pareille à une carotte mûre, puis quelque chose de rugueux, une surface irrégulière. D'un seul coup, il sentit son cœur s'arrêter de battre, comme une porte qui se ferme soudainement. Sa main resta figée sur l'épi, son visage se rigidifia, ses lèvres se pincèrent. Un moment après, il eut la conviction qu'il s'agissait des grains, que c'était là ce qu'il avait senti sous ses doigts. Alors la porte se rouvrit tout aussi soudainement et les palpitations reprirent, lui martelant la poitrine. Sur son visage commençait à se dessiner l'enthousiasme. Un torrent impétueux semblait couler sous la peau brune et ridée. Ses mains, encore posées sur l'épi, furent prises de démangeaisons. On aurait dit qu'elles avaient la gale. Il les ramena devant sa bouche et souffla dessus. Puis, il sortit de l'abri de nattes, saisit la houe suspendue au sophora et se mit à creuser à grand bruit autour de la culture. La terre retournée giclait, retombait en miettes et se répandait uniformément comme des grains de blé pilés, renfermant l'odeur de chaleur dorée du plein automne. L'aïeul bina, à coups de houe réguliers et serrés, depuis le pied de la culture jusqu'au-dessous des nattes. La fatigue lui coupait le souffle. Il défit les pans des nattes, les jeta sous le sophora. Le chien le suivait sans comprendre. L'aïeul continua à biner au-delà de l'abri sans rien dire. Il se retourna pour travailler encore la terre à la périphérie de la grande jarre, jusqu'à ce qu'un coup sonore et mouillé se fasse entendre. Il avait heurté le récipient sans le faire exprès. L'aïeul cessa de creuser, resta debout un moment, hébété, puis un sourire éclaira son visage. Il dit « L'aveugle, le plein automne est arrivé. Le maïs va donner du grain. » Le chien se lécha les babines. L'homme s'allongea et s'adressa au ciel, disant « J'ai réussi à tenir. C'est le plein automne. » La bête se mit à lui lécher les doigts. L'aïeul s'endormit sous les chatouillis. Une fois éveillé, il retourna examiner l'épi de maïs. Son visage s'assombrit subitement. Il remarqua que le beau vert des feuilles était devenu moins profond. Elles étaient maintenant légèrement teintées de jaune. Celle du dessous était touchée, et même celle du sommet, qui venait à peine de pousser. L'aïeul avait cultivé des cultures sur pied toute sa vie. Il savait ce que cette teinte jaunâtre signifiait. Cela signifiait que la plante manquait d'engrais. Elle ne pouvait donner une pleine quantité de grains que si elle ne manquait pas d'engrais. Le mieux, c'était les excréments humains. Les années précédentes, il en avait versé une pleine louche au pied de chaque plant. Il avait toujours tout cultivé avec succès. Blé, haricots, sorgho. Sa production avait toujours été la meilleure du village. Sur la chaîne montagneuse, aucun paysan ne pouvait rivaliser d'adresse avec lui. Debout devant la culture, ses lèvres étaient devenues aussi arides que la terre environnante. Il ne but pourtant pas, ne puisa pas non plus de quoi remplir un demi-bol pour le chien. Il ne savait pas où il pourrait trouver des excréments humains. Les latrines du village étaient toutes sèches et pulvérulentes. Ce qu'il restait d'excréments avait déjà brûlé comme du bon bois. Cela faisait plusieurs jours que le chien et lui-même n'éprouvaient plus le besoin d'aller à la selle. Leur corps avait absorbé tout ce qu'ils avaient pu ingurgiter sans rien vouloir rejeter. L'aïeul songea aux lambeaux de peau du dernier rat dont il s'était nourri. Il descendit dans le ravin pour en chercher, mais en vain. Il devina que l'aveugle avait tout mangé durant son déplacement à la source. Il gravit la pente, suffoquant, voulut interroger le chien, mais ne fit que se tenir face à lui un moment silencieusement avant d'aller puiser dans la marmite un bol de l'eau dans laquelle avait cuit le rat, de l'eau avec quelques gouttes d'huile. Ensuite, il ne referma pas le couvercle. Il se tourna pour dire au chien « Bois, si tu as faim ou soif ». Enfin, prenant le sac à provisions, il prit la direction du village. Il allait chercher de l'engrais. Il revint, le sac vide à la main, s'aidant d'une canne de bambou pour marcher. Chaque fois qu'il faisait trois pas, il lui fallait s'arrêter pour reprendre son souffle. Il n'avait plus aucune force. Il jeta le sac à terre, arriva à la cabane où il vit le chien couché, exactement comme avant son départ. L'intérieur de la marmite non plus n'avait pas changé d'aspect, les 11 gouttes d'huile étaient encore là. Il dit « Tu n'as pas bu ?» Le chien remua faiblement. Il prit une cuillère, puisa dans la marmite de quoi remplir une petite moitié de bol, but 5 gouttes d'huile sur les 11, puis dit au chien « Le reste est pour toi ». Il retourna auprès de la culture. De nouveau, il examina les feuilles. La couche jaunâtre semblait avoir épaissi, recouvrant le vert d'origine. L'aïeul pensa « Pourquoi n'as-tu pas songé plus tôt à préparer de l'engrais ? N'es-tu pas l'aïeul du village ? J'emmerde tes ancêtres, comment as-tu pu ne pas te souvenir que c'est lorsque la culture va donner des graines qu'elle a le plus besoin d'engrais ?